Bien, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Voici ma chronique Finance Vérité numéro 13 qui a pour titre aujourd'hui Sagesse et détermination contre asservissement. Dans l'actualité économique et plus particulièrement l'actualité économique générale, j'ai noté l'incroyable nouvelle répandue depuis une semaine dans les pseudo-journaux télévisés et les gazettes, selon laquelle les fruits et légumes auraient vu leur prix diminuer de l'ordre de 20 à 30% en cette saison par rapport à celle de 2008. Incroyable, car la réalité vécue est quand même quelque peu différente. Certes, en fin de saison, les cerises viennent de connaître une baisse de plus de la moitié de leur prix d'entrée de saison. Même chose pour les pêches, les melons, etc. Mais si l'on prend la moyenne des prix de détail proposés à la ménagère du début à la fin de la saison, il ne me paraît pas du tout certain de pouvoir constater une diminution moyenne sur 2008 et même, peut-être suivant les endroits, une hausse. Bref, la moyenne des prix des fruits et légumes n'a pas baissé, cela est sûr, elle a même plutôt un peu augmenté en première approche. La nouvelle n'est donc pas une information, elle constitue même de la désinformation. À sa manière, l'association Famille Rurale, qui publie son observatoire annuel, fait état d'une baisse de 20% cet été. Je cite, car l'été n'est pas fini et va durer jusqu'à fin septembre, officiellement, donc encore un mois. La baisse annoncée est donc présomptive et non établie. Aussitôt, en plus, cette association dénonce la très grande opacité dans la formation des prix des fruits et légumes. La restriction annule littéralement l'annonce précédente, pourtant reprise largement dans les médias, trop heureux de faire plaisir au gouvernement, dont Madame Lagarde, souvent invitée, incarne aussitôt avec le sourire tous les mensonges officiels. L'indice de prix de détail dressé par l'INSEE, et non pas des, grosse nuance, a en effet baissé en juillet, de même que l'indice des loyers à la fin du deuxième trimestre, ce qui semblerait, en première approche, corroborer en l'observation de Famille Rurale. Mais on sait la différence, voire la divergence, parfois, entre indice INSEE des prix à vocation intérieure franco-française et extérieure, principalement européenne. L'indice des prix à la consommation harmonisée augmente toujours plus depuis qu'il a été mis au point que l'indice des prix à la consommation franco-français. La crédibilité de ce dernier est donc nulle. Alors je regarde au plus proche des sources de prix mondiaux la pratique de l'oligarchie au Canada. Comme la France est totalement alignée en 2009, l'exemple devient riche d'enseignements. On sait que l'oligarchie mondiale a pour objectif le racket de la totalité du produit du travail des peuples au bénéfice du pouvoir mondial acheminé via les canaux bancaires. L'ensemble travaille comme une usine de production hydroélectrique. L'eau du travail des esclaves pousse indéfiniment la roue à aube oligarchique et fait tourner l'axe monétaire qui transforme le mouvement en électricité plus facile à acheminer, laquelle peut ensuite restituer la force là où le gouvernement mondial en a besoin. La machinerie bancaire est là pour cela. Bref, si les indices des prix de produits agricoles au Canada ont, en général, au total, baissé de 1997 à 2009 de moins 5%, les céréales, elles, de près de moins 40%. Par contre, les légumes ont augmenté de plus 0,5% et les pommes de terre de plus 43%. Tiens. Cela éclaire d'un jour bien plus aligné et bien plus dangereux le slogan paru depuis 2 ans du gouvernement français de consommer 5 fruits et légumes par jour au minimum. Ainsi donc, le gouvernement français obéit aux ordres du gouvernement mondial et veut dicter aux Français l'obligation de payer plus pour garder moins du produit de leur travail. Si l'on observe qu'il couple l'incitation à travailler plus pour gagner plus, on a tout compris. Les esclaves français doivent davantage travailler pour payer davantage. Plus grave encore, on voit l'assassinat de la production de céréales et le racket à la consommation de tubercules. Quand on se rappelle les conseils de son père, selon lesquels il faut, lorsqu'on veut cultiver son jardin en potager, d'abord l'assainir et faciliter son travail de la terre par la culture de pommes de terre, on sait qu'il n'y a rien de plus rustique ni de plus facile à produire, donc de moins cher, que la culture des pommes de terre. Alors pourquoi avoir fait baisser le prix des céréales de moins 40% alors qu'elles nécessitent énormément de travail et d'eau et augmenter dans le même temps celui des pommes de terre de plus 40%? Il y a là évidemment un levier manié par un acte délibéré de gouvernement mondial dont il est facile d'apercevoir à la fois les motivations et les conséquences sur la liberté et la santé des peuples. N'est-ce pas ? Il veut changer les habitudes alimentaires, de riches vers pauvres, tout en raquettant davantage. Tout bénef. Voilà tout. Les peuples doivent pouvoir manger pour vivre, à l'abri des famines, comme le souhaitait Parmentier, mais doivent cesser d'apprendre à vivre pour bien manger. Ce levier est celui du maintien des privilèges d'une caste. Mon conseil patrimonial du jour. Dans l'état actuel des choses en France et dans l'Euroland, placez donc une année de cotisation, entre guillemets, salariale et patronale additionnée, de côté, lors d'une bonne année, en une ou plusieurs fois. Placez-les en valeurs mobilières bien choisies, à valeurs pleines et entières, et participez aux assemblées générales. Choisissez de préférence des actions étrangères à la zone euro et de toute façon à la zone ex-française, jusqu'à plus ample informée. Regardez alors fluctuer votre capital, complétez-le dans les fluctuations basses, calmement. Attendez la retraite 30 ou 40 ans plus tard, et vous aurez alors tout simplement une rente annuelle égale à votre épargne initiale en monnaie constante. Cela ressemble à une recette de cuisine, et c'en est bien une. Ce complément pourra même devenir le principal, pour peu que vous ayez eu la sagesse de produire une grande valeur ajoutée à vos capacités professionnelles par l'étude et le travail. Tout l'art du conseil financier se résume à cela. Vous évitez les erreurs et les fautes et vous encadrez vers le salut. Le conseil financier a besoin de temps pour démontrer la valeur ajoutée énorme de son travail à votre service, qui au début ne paraît pas forcément transcendant. Soyez sage et bon, mais n'oubliez jamais votre véritable intérêt à long terme, et consultez-moi par exemple, et évitez comme la peste les pseudo-conseils de pseudo-conseillers financiers chez les banques. Mon histoire de la monnaie, chapitre 13, une conquête empoisonnée. Je voudrais tout d'abord préciser que si j'ai ignoré dans mon chapitre précédent le règne de Louis XI, c'est parce que je le connais trop bien. Si fortement intéressant qu'il est à tous égards, j'aurais risqué des digressions passionnées, bien loin de mon sujet monétaire. Je rappellerai donc que j'ai choisi cette date de 1475 parce qu'elle fut celle du traité de Pekini, ou Pekini, signé par Louis XI avec le roi d'Angleterre et qui mit fin à la guerre de Cent Ans. C'est d'ailleurs Louis XI qui créa ce premier écu d'or au soleil. Mais Louis XI remet alors au roi Édouard IV probablement la quasi-totalité de ce que les Anglais n'avaient pas encore pillé pour le dissuader d'aller plus loin que Calais, lieu de son débarquement avec 23 000 hommes, qu'il traita avec tout ce que la France pouvait offrir de vivres, de couverts et de logis. Cette époque où la France est livrée au pillage des Anglais et de leurs alliés bourguignons, qui vit Jeanne d'Arc livrée grâce à la corruption d'un évêque avec 20 000 livres tournois, selon mes sources, 10 000 selon d'autres, cette époque m'est toujours bien pénible à évoquer. Aussi, d'ailleurs, au souvenir de la balade des pendus de François de Montcorbier d'Yvillon, du nom emprunté à son père adoptif, le chanoine Guillaume de Villon. Tous les Français véritablement amoureux de la France peuvent me comprendre. La langue française elle-même fut à l'époque dénaturée, le français direct, qualifié de vieux français de nos jours, a laissé la place au français composé auxquels les Bossuet, Victor Hugo, Émile Zola, Jules Verne et bien d'autres donnèrent par la suite ces lettres de noblesse imprégnées de latin et de grec. Il y a aussi le fait que durant tout ce XVe siècle, des fils se sont tissés et ont conduit à des imbrications incroyables d'intérêts entre les familles nobles, riches et commerçantes de tous les pays d'Europe de l'Ouest et principalement entre l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne actuelle. Tous ces fils familiaux, financiers et notariés tissés devaient amener Catherine de Médicis à trouver la Bretagne dans son berceau et un mariage arrangé pour cause financière avec François II. Tout le XVIe siècle est écrit au cours du XVe, et même tous les siècles suivants jusqu'au nôtre. Les sujets de Louis XI sont déjà, sans le savoir, les sujets de la future Catherine de Médicis, épouse et mère de quatre rois, régente de France, qui ne naîtra que 44 ans plus tard, en 1519. En tout cas, c'est comme cela que le professeur d'économie politique les voit, car rien n'arrive en économie qui n'était décidé politiquement auparavant par quelques individus. Revenons donc, après ces précisions purement historiques, à la conquête des richesses aurifères de l'Amérique et du même coup à notre sujet monétaire. Au cours des années qui suivirent la prise de possession des Antilles, qui ouvrit la voie du pillage des empires aztèques et mayas, par exemple, l'or fut convoyé par galions entiers vers l'Europe. Cet afflux rééquilibra d'abord le trésor espagnol. Mais l'enrichissement sans cause économique des grands du royaume et surtout des grands commerçants distribua en Espagne puis partout en Europe une quantité massive de métal pur qui déséquilibra à la baisse le cours de toutes les monnaies d'or. On estime en effet à 70 000 tonnes l'or pur arraché aux Amériques par l'Europe de 1492 à 1800. La France, exsangue, à la sortie de la guerre de Cent Ans, ne ferait plus que misère, conflits, rébellions, crimes, maladies, famine. Pour acheter quelque chose, il fallait emprunter à des taux usuraires chez des officines qui se multipliaient et pour cause, du fait de la dévaluation du petit denier en face des prétentions en or ou en argent des usuriers et des commerçants en sus des impôts. L'inflation galopait, la monnaie courante ne valant plus rien. L'afflux d'or espagnol sur les places commerciales européennes devait encore compliquer le problème au lieu de le résoudre. En gros, ce qui se passait en Amérique, où les Indiens offraient des sacs d'or purs pour un simple miroir ou un quelconque objet de pacotille inconnu d'eux, se transposa en Europe. L'or, au fur et à mesure que sa rareté diminuait, perdait sa valeur. Il fallait toujours plus d'or pour acheter une même marchandise. L'inflation par les prix atteignit ainsi le taux énorme de 60% l'an sous Catherine de Médicis, laquelle, afin de renflouer les caisses, et plutôt l'encaisse métallique, à des fins d'émission monétaire, ne se privait pas de piller les convois d'or que les Espagnols envoyaient à travers la France pour alimenter leur guerre en Hollande. Et tout ceci malgré la pression à la baisse des stocks d'or par l'achat de plus de draperies, toujours plus de pierres précieuses, d'épices, dans les Indes dites orientales, par opposition aux Indes dites occidentales, les Amériques, qui, elles, fournissaient la monnaie d'or et d'argent nécessaire. En somme, le pillage de l'Amérique servait à acheter des produits finis de haute qualité aux Indes. Mais le solde qui restait en Europe produisit une sorte d'indigestion monétaire. À force de trop piller, on en crevait. Il y a eu quand même le fait que les monnaies d'or et d'argent ressortirent des caches. Les monnaies d'or et d'argent neuves, en complément, redonnèrent à la circulation monétaire sa qualité ancienne pour 4 siècles, jusqu'en 1935. Comme toujours, les transferts de monnaie et de marchandises enrichirent un trafic extrêmement juteux né des différences de cours internationaux qui se localisa même en Chine, déjà, où 4 grammes d'argent, fort rare là-bas, achètent 1 gramme d'or, qui rachète en Europe 10 grammes d'argent, donc avec un bénéfice de 150% à la frappe libre. On croit lire l'histoire de 2009 où la spéculation sur les monnaies, plus que n'importe quoi, rapporte aux banques via leurs traders, n'est-ce pas? Malgré les risques de pertes maritimes dus à la météo ou plus encore aux pirates de la mer de Chine, les grands marchands de Venise, les Médicis par exemple, et leurs banquiers, s'enrichissent à grande vitesse. Comme toujours, les désordres qui suivent les grandes guerres favorisent l'émergence des spéculateurs, tout comme la sortie de la guerre froide depuis 1990, commencée en 1945 dans le prolongement des conflits depuis 1792, qui engloutirent tout ce que le travail humain a pu produire de richesses, transformées en armements épouvantables par des marchands sans aucun scrupule, uniquement dominés par le profit. Et dire que l'État français a pris une part importante à ce honteux commerce. Nous poursuivrons à la loupe, dans notre prochain chapitre, l'étude de cette inflation galopante sous Catherine de Médicis, si actuelle, malgré les artifices statistiques et médiatiques. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeurs de Radio Silence. À mi-septembre.